Alors, t'as prévu quoi au niveau du menu ce soir?
Je pensais faire des filets de dorade marinés au citron. Tu sais, avec une petite julienne de légumes romarin.
Ça va être excellent tout ça. Bon, je vais allumer le Weber et sortir la plancha.
Chérie, je vais pas faire ça au barbecue, c'est la tempête dehors et tombe des cordes.
Oui, et alors?
Avec les accessoires pour poissons, pizza et viande des Creative Pack, cuisiner sur votre barbecue Weber devient si facile et créatif que vous ne pourrez plus vous en passer. Weber, la gastronomie d'extérieur.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a 350 ans étaient établis les travaux préparatoires d'un des plus importants chantiers du grand siècle, le percement et l'aménagement du canal du Midi, permettant de relier l'Atlantique à la Méditerranée, une œuvre titanesque sur laquelle Franck Ferrand revient cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. J'étais en train de dire que vous étiez notre star, Julia.
Oh, c'est gentil.
On vous aime. Vous savez, dans tous les messages que je reçois, il y a toujours un petit mot pour Julia, et je le dis pas assez.
C'est gentil.
L'homme
Franck.
De ce projet fou, Paul Riquet, fait l'objet de deux biographies, publiées à l'occasion de ce 350e anniversaire, pourrait-on dire. Pierre-Paul Riquet, l'incroyable aventure du canal des deux mers de Monique Dolin de Fresnel, qui est une descendante de Riquet, elle va nous expliquer ça. Et Riquet, le génie des eaux, de Mireille Aublin-Brière, qui a été chargée des archives historiques au VNF, les voies navigables de France. Toutes les deux sont dans ce studio avec nous.
Et voilà qui nous rappelle une autre émission que vous présentiez sur Europe, c'était il y a quelques années,
vous avez bonne mémoire. À l'époque, on passait les étés à se promener parmi les merveilles du patrimoine français. Et nous avions descendu, il est vrai, ce merveilleux canal du Midi. Je vous proposerai tout à l'heure une séquence nostalgie, comme disait Nicolas Hulot, au cours de laquelle nous referons cette grande promenade ensemble.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Quand vous subissez, comme nous les subissons tous, la laideur tristement ordinaire de nos autoroutes, la nullité esthétique des installations fluviales et portuaires un peu partout, pour ne rien dire des installations industrielles bien entendu, vous ne pouvez qu'éprouver un sentiment de gratitude et de connivence envers les ingénieurs du XVIIe siècle qui ne sacrifiaient jamais le beau à l'utile. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, nous sommes capables de construire de beaux ouvrages d'art. Mais pour un pont de l'île de Ré, par exemple, très élégant et même gracieux, combien de ces ronds-points effrayants qui massacrent partout le paysage, et on n'en finirait pas de faire la liste de toutes ces défigurations. Les hommes de Paul Riquet, eux, avaient pour objet de compléter, de prolonger, d'améliorer le site naturel et non de le violenter avec mépris. On peut dire que ces hommes-là travaillaient dans l'harmonie. Ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est le plus grand chantier de ce qu'on a appelé donc le grand siècle. Un projet fou, une entreprise, vous l'avez dit Julia, littéralement titanesque, consistant à relier le fleuve de la Garonne, fleuve atlantique, et plus tard le canal parallèle qui suit son cours, à la mer Méditerranée, donc de rendre possible entre Toulouse et Sète, pour les embarcations de taille petite ou moyenne, le passage de l'océan à la mer sans avoir à faire le tour de l'immense péninsule ibérique, sans avoir à franchir le détroit de Gibraltar, avec tout ce que cela suppose de problèmes énormes à régler, notamment celui des dénivellations constantes d'un paysage accidenté. Ce canal est le fruit d'une cascade, si j'ose dire, de défis techniques qu'il aura fallu surmonter, à commencer par l'acheminement d'énormes quantités d'eau provenant de la montagne Noire jusqu'au seuil de Naurouze, ce seuil de Naurouze qui est le point le plus élevé du parcours. Le canal du Midi, ce sont 240 km de voies d'eau, ce sont plus de 300 ouvrages d'art, plus de 60 écluses, 15 années d'un travail acharné pour plus de 10 000 ouvriers et qui ont été nécessaires à l'accomplissement de ce gigantesque ouvrage entre 1666 et 1681. Des dates qui ne sont pas anodines, évidemment. Elles correspondent à la grande époque des entreprises de Colbert en faveur du redressement productif. Un Colbert qui, avant tout, a vu dans ce projet pharaonique un moyen de favoriser le commerce du blé. Nous verrons comment et pourquoi. Et nous verrons aussi quel rôle a joué l'Église dans cette entreprise. C'est une des surprises qui m'ont attendu au cours de la préparation de cette émission. Vous avez bien compris que derrière ce chantier quasiment sans équivalent, il y a la vision, L'ambition, il y a la persévérance et la force d'âme, mais aussi les défauts et les insuffisances d'un homme d'exception, un géant, nous dit une de nos deux biographes, ce Pierre-Paul Riquet, dont je vous propose de découvrir tout de suite en compagnie de nos invités les extraordinaires qualités.
Un extrait sur Europe 1 de La Matelote, chanson de Provence et Languedoc. À tout de suite pour la grande aventure du canal du Midi. Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Monique Dolin-Dufresnel, qui est directrice des bibliothèques de Sciences Po Bordeaux, auteur de Pierre-Paul Riquet, 1609-1680, l'incroyable aventure du canal des deux mers aux éditions Sud-Ouest. Et Mireille Aublin-Brière, qui est chargée de la communication régionale et des archives historiques aux Voies navigables de France. Elle est auteur notamment de Riquet, le génie des eaux, aux éditions Privat Franck.
Vous avez cité les dates de Pierre-Paul Riquet, 1609-1680, ce qui veut dire qu'il est mort avant l'inauguration de son canal. C'est tout le paradoxe et c'est l'ironie de cet extraordinaire accomplissement pour cet homme qui, au moment où il se lance dans une telle aventure, est déjà un homme plus que mûr, vous allez le voir. Je cite de Charles Cros, notre grand poète Charles Cros, à la fin du 19e siècle, ces vers que précisément Monique Dolin-Dufresnel a mis en exergue de son ouvrage. La brise chaude, humide, avec ses odeurs vagues, souffle de la mer bleue en moutonnant ses vagues, et la mer bleue arrive au milieu des coteaux, son flot soumis anime ici mis le bateau. Maintenant, les canaux forment comme un lacis, comme un tapis brodé recouvrant le pays. Et le pays du vin vermeil, des moissons blondes, la France a dans son cœur le chemin des deux mondes, le liquide chemin bleu, bordé d'arbres verts, que Riquet dut rêver et que chantent mes vers. Vous descendez, vous, du grand Pierre-Paul Riquet, Monique Dolin-Dufresnel ?
Eh bien oui, j'ai cet avantage pour lequel je n'y peux rien. En fait, Pierre-Paul Riquet, mon aïeul, à la 9e génération. Et nous sommes assez nombreux, d'ailleurs, à descendre de Riquet. Il y a des associations familiales des descendants de Riquet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait un petit calcul, nous devons être entre 20 et 30 000 descendants à peu près. Dont un bon tiers habite en région toulousaine. Donc on n'a pas quitté le lieu emblématique de notre cher arrière-grand-père.
Alors, si vous allez en Normandie, dans le grandiose salon de marbre du château du Champ de Bataille, vous verrez un énorme, quand je dis énorme, il est de dimension tout à fait rarissime, un énorme médaillon du roi Louis XIV de profil, qui est de marbre de Carrare, entouré d'un énorme bandeau de marbre noir, et c'est le cadeau personnel de Louis XIV à la famille de Riquet pour l'inauguration du canal du Midi. Et l'on se dit que pour que Louis XIV ait fait un tel cadeau au Riquet, c'est que véritablement il devait savoir gré à cet homme d'avoir accompli un véritable exploit. C'était un géant cet homme, Mireille Aublin-Brière.
Absolument, il a réalisé le deuxième chantier du royaume, puisque le premier était le château de Versailles, le domaine de Versailles. Et Riquet a réalisé le deuxième chantier, qui était un chantier européen. Et il l'a réalisé avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire à la force du poignet.
Oui.
Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont 240 km de voies d'eau, 63 écluses, 328 ouvrages d'art. Et il l'a réalisé à un âge canonique, c'est-à-dire 59 ans, ce qui veut dire maintenant peut-être commencer à 70 ans. Et du fait qu'il est mort à 71 ans, il aurait terminé son chantier à 80 ans actuellement.
En 1996, l'ensemble de tous ces ouvrages du canal du Midi ont été inscrits par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Je ne dirais pas que ça suffirait à les protéger, car il faut savoir que ce canal, il lui est arrivé assez récemment d'être plusieurs fois mis en cause, et qu'on se demandait s'il allait survivre.
Oui, du fait que, premièrement, actuellement, il y a les platanes qui sont atteints. Ils ont le chancre doré. C'est un champignon très sévère qui attaque tous les platanes du canal du Midi. Et c'est lié aux caisses pendant la dernière guerre mondiale, lorsque les Américains sont arrivés avec des caisses d'armement, le champignon était dans ces caisses. Il est vrai que la voie d'eau a été plusieurs fois atteinte, et notamment on devait fermer le canal du Midi il y a une vingtaine d'années pour en faire à Toulouse une voie express. Mais le maire de l'époque, Pierre Baudis, s'y est opposé. Ensuite, il y a eu l'absence de transport de marchandises. En 1989, les deux derniers pinardiers se sont arrêtés. Mais
expliquer ce que sont les pinardiers pour les gens du Nord.
ce sont des bateliers qui transportent le vin. Mais heureusement, le tourisme a pris le relais et on peut dire qu'il y a par exemple 15 000 passages de bateaux à l'écluse de Fonsuranne près de Béziers. Donc on pense que le canal est sauvé pour
l'éternité. Sauvé par le tourisme, heureusement, comme souvent d'ailleurs. Alors nous allons bien sûr parler de celui qui est l'artisan du canal du Midi. Nous allons revivre la biographie, l'incroyable aventure de ce Pierre-Paul Riquet. Juste avant cela, tout de même, j'aimerais que vous nous disiez ce qui, à vos yeux, dans ce canal du Midi, reste aujourd'hui le plus spectaculaire. Pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un site à mentionner en particulier, Mireille Aublin-Brière?
Bon, alors, il y a le lac de Saint-Féréol, puisque ce fut le premier lac le plus grand d'Europe et pour ne pas dire du monde. Enfin, je ne suis pas allée vérifier, mais c'est ce qui se dit. Donc c'est magnifique dans la montagne noire avec les 76 km de rigoles créés par
Riquet. C'est un lac artificiel.
C'est un lac artificiel. Il y a également le pont aqueduc de Répudre qui est le plus vieux au monde actuellement. Il y en avait en Italie, mais qui s'est écroulé. Donc c'est le nôtre. Le pont canal du Répudre, et puis il y a le tunnel du Malpas, parce que là Riquet a fait une œuvre magistrale,
la percée du Malpas. On va parler de tous ces ouvrages et de ces endroits tout à fait extraordinaires tout à l'heure au cours de notre promenade. Ce sera mon récit à 13h30. Monique Dulin-Dufresnel, est-ce qu'on peut dire selon vous que ce canal est encore aujourd'hui faisable, si je puis dire? Il faut combien de temps pour le parcourir?
Alors ça dépend, parce qu'on peut le parcourir à vélo sur les...
Alors
les
pardon, je voulais dire moi par voie en bateau, bien sûr.
Mais on ne peut pas dépasser la vitesse de 5 km/h, justement pour éviter d'abîmer les berges du canal. Donc à l'époque de Riquet, c'était en 4 jours. Là, on peut le faire un petit peu moins, mais guère moins.
Non, c'est à peu près 5-6 jours à l'époque de Riquet.
Il faut avoir une petite semaine.
Une petite semaine si on veut le faire tranquillement.
Voilà. Il faut avoir le temps.
Nous en arrivons dans un instant à la vie du génie des eaux.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie pour les soupers du roi de Michel Richard de Lalande.
C'est un portrait intime de votre ancêtre Riquet que vous nous proposez aux éditions Priva, Mireille Aublin-Brière. Ce portrait... Ah non, pardon, oui, je suis en train de confondre mes deux invités, pardon. Mais oui, c'est vous, Mireille Aublin-Brière, qui avez écrit celui-ci, ce portrait intime. Vous nous parlez d'un personnage qui était une force de la nature.
Absolument. Déjà physiquement, parce que il a traversé les épidémies, les grandes pestes. Rappelons que à Toulouse, où il y avait à peu près 50 000 habitants à l'époque de Riquet, 10 000 ont disparu à cause de la peste. Donc, il était fort physiquement. Il a traversé ces épidémies. Et puis, c'était une force de la nature pour avoir réalisé à un âge canonique, cet
un âge ouvrage. Canonique pour l'époque, il y avait
pour
une soixantaine d'années.
Oui, maintenant c'est différent.
Alors il naît en 1609, on ne sait pas exactement quand, à Béziers.
On suppose qu'il est né le 29 juin, jour de la Saint-Pierre et Paul. 29
ce qui justifierait ce drôle de prénom.
À part Pierre-Paul Rubin, ce sont pas très très nombreux à cette époque-là, s'appelait Pierre-Paul. On l'a souvent fait naître en 1604 pour des raisons que j'ignore. En revanche, il est plus plausible qu'il soit né en 1609, puisque son acte de décès du mois d'octobre 1680 porte l'âge de 71 ans. Donc, en calculant normalement, on arrive à 1609.
Son père était un juriste, mais comme souvent les professions ces professions de robe de l'Ancien Régime, il est assez difficile de le définir très précisément, en tout cas pour un grand public du XXIe siècle. Comment définiriez-vous ces fonctions ?
Eh bien, il a été notaire, il a acquis des fermes dans la ville de Béziers. Il a été, comment on pourrait dire, un homme d'affaires, pour rester dans quelque chose d'assez large, faisant justement des affaires pas toujours très nettes, mais il a à un moment donné aussi dirigé la ville de Béziers, puisqu'il a fait partie du Conseil des Trente, qui était un genre de consul qui dirigeait la ville de Béziers. C'est un homme qui a eu des occupations professionnelles très variées, très diversifiées, pas toujours...
Des affaires un peu louches, très honnête, il faut bien dire. Est-ce que Pierre-Paul a été marqué justement par la personnalité de ce père?
Oui, parce que je pense que c'était un père peu scrupuleux du point de vue affaire. Mm-hmm. C'était un affairiste et Riquet a repris ce côté affairiste et il a été pendant de nombreuses années prêteur banquier. En dehors du fait qu'il était agent de la gabelle, c'est-à-dire qu'il récupérait l'impôt sur le sel, mais il a été banquier privé et il y a eu beaucoup de prêts, de petits prêts, puis des gros prêts, y compris au consul de Revel. Revel était une ville endettée et Riquet a acheté une partie de tous les droits des consuls de Revel.
Alors, le fils, donc Pierre-Paul, fait ses études. On ne sait pas non plus grand-chose de ses études. On pense qu'il était chez les Jésuites.
Pierre-Paul Riquet.
Oui.
Moi j'ai des doutes là-dessus parce que tout pendant que je n'ai pas la preuve historique de ce qui est avancé, on peut supposer, on en a discuté avec Monique tout à l'heure justement, on peut supposer qu'il a fait des études, mais quant à dire qu'il est allé à l'école des Jésuites, il n'y a aucune pièce le permettant de le dire. Mmh. En revanche, on sait qu'il est intelligent, on sait qu'il parle très bien, qu'il écrit très bien le français.
Sans faute, ce qui à cette époque est rarissime.
Parce que je suis tombée sur 133 lettres écrites de la main de Pierre-Paul Riquet. Mais il ne parle pas, il n'a pas étudié le latin ni le grec. Donc à cette époque-là, les personnes qui faisaient des études secondaires, si je puis dire, étudiaient a priori le latin et le grec. Or, on sait qu'il ne l'a pas étudié, il l'a écrit lui-même, à Colbert.
Alors, il va faire sa carrière dans les gabelles. Il faut expliquer en deux mots de quoi il s'agit, justement, ces gabelles. Monique Dolin-Dufresnel.
Alors, la gabelle est un impôt sur le sel, qui est un impôt qui a été introduit par Saint-Louis. Mm-hmm. Et comme tout impôt digne de ce nom, n'était que provisoire. Et ce que l'on sait peut-être moins, c'est que la gabelle a effectivement été, a été supprimée par la Révolution et par la Constituante, mais la taxe sur le sel a continué à exister jusqu'au 1er janvier 1946. La gabelle du temps de Riquet, c'était une ferme, c'est-à-dire que quelqu'un comme Riquet ou d'autres achetait le droit de faire payer le sel à tous les citoyens, mmh, qui avaient une obligation de consommer du sel. Comme on sait que c'était le seul moyen
des concessions pour les percepteurs, en quelque sorte.
Voilà. Et comme c'était un impôt extrêmement, que le peuple ne supportait pas, le roi préférait passer par un intermédiaire, de manière à ce que ce soit l'intermédiaire qui soit
le cas impopulaire.
Voilà, le cas échéant. Et donc, il faut savoir aussi qu'en France, il y avait plusieurs zones de gabelles, grandes gabelles, petites gabelles, pays rédimés, pays francs, et que le Languedoc était un pays de petites gabelles, c'est-à-dire que l'obligation d'acheter du sel était moindre en Languedoc que par exemple en région parisienne. Et évidemment, cette différence selon les régions entraînait beaucoup de contrebande, de fausses sonnage, etc. Donc, le rôle de Riquet était non seulement de faire venir le sel des marais salants de la Méditerranée, mais également, il avait une activité judiciaire concernant la réglementation de la gabelle. C'est assez difficile à expliquer parce que la gabelle, on a toujours cette notion comme la taille, ou la dîme.
Oui, une notion féodale. Oui,
voilà. Mais en tout cas, c'était un impôt extrêmement
enrichissant pour le fermier des Gabelles. C'est ce qui a expliqué la très grande fortune de Riquet.
Oui, et c'est un très bon gestionnaire.
Ah oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'il fait preuve dans la gestion de ses affaires, qui sont en partie les affaires du roi, est-ce qu'il fait preuve d'innovation? Est-ce que son esprit se manifeste, son esprit d'innovation et d'indépendance se manifeste particulièrement, ou est-ce qu'il est un simple fermier au sens fonctionnaire, si l'on peut dire?
Je pense que c'est un bon administrateur, mais qui avait déjà dans l'idée d'améliorer le transport des marchandises en Languedoc, dont le transport du sel, parce que au premier chef, c'était quand même son business, comme on peut dire, qui l'intéressait. Transport du sel, transport du blé, transport des marchandises, qui allait enrichir la région, et lui par la même occasion.
Comment en est-il venu à cette idée d'un canal qui permettrait de relier les deux mers? Eh bien, nous y venons dans un instant.
Franck et ses invités qui nous emmènent faire un beau voyage, la descente du canal du Midi, dont les travaux ont commencé il y a 350 ans.
Nous sommes avec Monique Dolin-Dufresnel, qui donc descend de Pierre-Paul Riquet, et qui a écrit l'incroyable aventure du canal des deux mers, et Mireille Aublin-Brière, qui connaît très bien les voies navigables de France, n'est-ce pas, et qui a écrit Le génie des eaux, Riquet, portrait intime. Alors, il faut que nous avancions, mesdames, pardon d'avancer un peu vite peut-être, mais j'aimerais déjà que nous envisagions notre Riquet marié, père de famille, d'une famille relativement nombreuse d'ailleurs, et quatre de ses enfants vont survivre, si je puis dire, cinq. Il y en a eu huit qui sont nés, c'est ça ?
Il y a eu huit enfants, quatre à Mirepoix dans l'Ariège, mm-hmm. Et ça a été une découverte, et quatre à Revel.
Donc marié, père de famille, châtelain aussi, disons-le. Ça n'est pas négligeable.
Absolument. Ah oui. Il a acheté le château de Bon Repos, d'ailleurs, qui a des activités actuellement de remise en état énorme. Et puis qui
se trouve où, ce château de Bon Repos?
Bon Repos, Riquet, à 20 km de Toulouse.
Mm-hmm. À côté de Verfeil, la ville, le petit village où sont enterrées les petites filles modèles.
Voilà. Et donc cet homme, nous l'avons compris, a fait une solide fortune dans les Gabelles, enfin dans la Gabelle. Il est une notabilité locale. Comment lui vient cette idée de construire un canal qui reliera la Garonne à la Méditerranée?
Je pense que Riquet est un pragmatique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son idée c'était aussi d'améliorer le commerce, dont lui-même et sa famille seraient les premiers bénéficiaires. Mais également, il pensait à laisser un héritage conséquent à ses enfants. Une des caractéristiques de Riquet, c'est que il a voulu revenir dans un état de noblesse antérieure. Et normalement, quand on faisait un ouvrage comme le canal, normalement, il aurait dû être anobli. Lui, il voulait revenir à une noblesse antérieure. Donc, il lui fallait faire quelque chose d'extraordinaire pour arriver à ça. Et d'autre part, bon, les routes en Languedoc à l'époque étaient des routes en très mauvais état, que les états du Languedoc étaient censés entretenir et qu'ils ne faisaient pas. Et donc, cette idée de canal est arrivée à point nommé pour relancer l'activité économique du pays. Et c'est une idée qui déjà était dans l'histoire de la région.
Et évidemment, il est intéressé personnellement, Riquet, parce qu'il y a la question de l'acheminement du sel qui va présider à tout ça.
Bien sûr, il s'est dit, en raison des problèmes de transport, si le transport du sel se fait par voie d'eau, eh bien ce sera très bon pour mes finances.
Mais voilà.
Donc il a eu aussi la chance, de par son travail, de parcourir les sentiers de la Montagne Noire. Il s'est aperçu qu'il pouvait réunir les ruisseaux. Et donc alimenter en eau le canal, parce que
voilà,
c'est un gros
problème
d'alimentation.
C'est ça la grande question, c'est-à-dire que créer un canal, c'est pas seulement creuser un canal, c'est qu'il faut mettre de l'eau dedans, et d'où vient-elle cette eau, hein,
voilà,
c'est ça.
Ce fut le problème de tous les rois précédents et de ceux qui se sont penchés sur la possibilité de faire un canal. Et lui, il a trouvé la solution en réunissant les eaux de la Montagne Noire et avec le partage des eaux à Norouz, qui permet au point le plus haut d'envoyer les eaux du canal vers l'océan et vers la Méditerranée. Ça a été sa grande découverte, mais on partage également avec Thomas de Scorbiac. Je tiens à citer ce personnage parce que même Thomas de Scorbiac l'a un petit peu accusé à une époque de lui avoir piqué son projet.
Oui, d'avoir tiré la couverture, si l'on peut
voilà.
dire.
Voilà. Mais enfin, Riquet est bien à l'origine du canal. Et il a eu aussi la chance, à partir du moment où il a bien conçu son idée de canal, il a eu la chance, lors d'une tournée pastorale de Charles d'Anglure de Bourlemont, de rencontrer ce prélat qui était un ami de Colbert.
C'était l'archevêque de Toulouse.
Absolument, l'archevêque de Toulouse. Et c'est l'archevêque l'archevêque de Toulouse qui lui a permis, qui lui a dit envoyez votre projet à Colbert, je me charge du reste.
Et voilà, mais ça c'est-à-dire ça c'est une entrée à la cour en fait, ça change tout évidemment. Absolument. Dans un système aussi centralisé que peut l'être cette monarchie française.
Absolument, d'autant que Charles-François d'Anglure de Bourlemont, donc l'archevêque de Toulouse, était aussi président des États du Languedoc. Donc ça lui donnait encore un peu plus de poids dans son activité, le fait d'être intermédiaire auprès de Colbert.
Quels sont les arguments que Riquet va faire valoir devant le grand ministre, devant Colbert?
Alors, ce sont des arguments économiques, donc enrichir le Languedoc, politique et politique et diplomatique, puisque au départ l'idée de Riquet était de faire un canal suffisamment large pour faire passer les galères du roi de l'Atlantique à la Méditerranée, en évitant de passer par Gibraltar, donc en évitant de contourner l'Espagne avec laquelle on pouvait être en désaccord.
Donc là, une dimension stratégique majeure, hein, ça,
ah oui,
évidemment.
Et puis on évitait les barbaresques de
Bien
la Méditerranée,
sûr, surtout,
surtout qui faisaient aussi beaucoup de piratage dans la mer. Et puis il s'est avéré que le faire passer des galères supposait un canal large, beaucoup trop large et beaucoup trop coûteux. Donc on a réduit un peu, même beaucoup, la largeur du canal. Mais le canal s'est fait quand même.
C'est fascinant, hein, ces histoires de grands canaux. On pense évidemment à l'histoire du canal de Suez, qui est une des plus grandes épopées du 19e siècle. Et puis évidemment au canal de Panama, qui a eu en France des répercussions d'un tout autre ordre. Mais enfin ça nous entraînerait loin. En tout cas, ce sont toujours des entreprises titanesques qui supposent de longues années d'études. En l'occurrence, le roi va envoyer sur place un certain nombre d'hommes de l'art, bien entendu.
Oui, c'est l'intendant déjà, enfin les intendants étaient sur place. L'Église, justement, au travers des prélats, a suivi...
Ça, c'est un aspect important.
Absolument. A suivi, donc, main dans la main avec Riquet, cette construction du canal. Et puis le roi a envoyé ses ingénieurs, parce qu'il faut, il ne faut pas oublier que Riquet n'était ni ingénieur, ni architecte, ni dessinateur, ni, j'ai envie de dire. C'était un autodidacte. Et c'était un homme de terrain pragmatique. Il a tout conçu lui-même et il a tout organisé lui-même avec des ateliers, avec une organisation très rationnelle du travail. Et il s'est entouré, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il s'est entouré d'une équipe extrêmement compétente, avec même un ingénieur qui, soi-disant, l'aurait trahi peut-être en envoyant une carte au roi dans son dos, si on peut dire. Mais il l'a gardé, même trahi par deux ou trois de ses hommes, il a gardé ces gens-là pour leurs compétences.
Il a fallu que tout ce monde arrive à se mettre d'accord, ce qui est extraordinaire. Il fallait sans doute une personnalité tout à fait hors du commun pour arriver à dominer les tensions qui devaient être nombreuses dans cette affaire. Vous montrez hein, tout ça, bien entendu. On vit à travers vos deux ouvrages d'une manière assez distincte, d'ailleurs assez différente. On vit l'évolution de ce très grand projet jusqu'à cet édit du roi d'octobre 1666 qui décrète le début des travaux. Alors avant d'entrer dans le détail de ces travaux et de raconter à nos auditeurs quelles ont été les difficultés à surmonter, ce que je vous propose, c'est la récréation du moment, si je puis dire, c'est de faire une petite promenade sur ce canal du Midi et de voir quel a été finalement le résultat. Est-ce que nous en gardons encore, nous, 3 siècles et demi plus tard.
Le récit de Franck Ferrand.
Et comme convenu sur Europe 1, nous vous proposons une fabuleuse promenade, la descente du canal du Midi.
Et oui, alors nous embarquons au cœur de la ville rose, évidemment, pas loin de la jonction du canal du Midi avec le canal parallèle à la Garonne qui sera bâti un peu plus tard, on verra tout ça. Il est possible, mesdames, qu'au cours de notre promenade, il y ait des petites erreurs, hein, que ma mémoire me fasse défaut. Évidemment, vous êtes là pour rectifier si nécessaire. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur Toulouse, il y aurait tellement à dire que je préfère encore ne rien dire du tout. C'est évidemment une ville tout à fait extraordinaire et passionnante, semée de vestiges tout à fait extraordinaires. On peut dire que c'est la plus belle introduction possible à cette descente du canal du Midi, depuis le port de l'embouchure, évidemment. Alors nous avons vu un peu quelles ont été les prémices, l'origine de ce grand œuvre qu'est le canal du Midi. Nous avons compris à quel point il avait fallu résoudre un grand nombre de difficultés pour le rendre possible. Nous y reviendrons tout à l'heure et nous allons allons creuser un certain nombre de ces difficultés. Mais avançons pour l'instant, descendons, si je puis dire, sur notre péniche le cours du canal. Parvenons tranquillement au rythme des écluses, hein, parce qu'alors il n'y a pas de manière plus tranquille de voyager que cette manière fluviale. Il faut attendre, évidemment, ça, on est obligé d'attendre le passage aux écluses. Il faut espérer quand c'est comme ça qu'il n'y ait pas trop de bateaux devant. Nous parvenons jusqu'au seuil de Norouz, endroit capital déterminant pour le canal du Midi. En effet, la grande idée de Paul Riquet, c'était de stocker ces eaux de la montagne noire et de les diriger vers le canal. Et bien sûr, le seuil de Norouz, c'est l'endroit où la Rigole qui descend du bassin de Saint-Ferréol atteint le canal. Il faut savoir qu'on construira là, mais beaucoup plus tard, hein, c'est sous la Restauration, en 1825, on construira cet obélisque fiché sur les drôles de pierres de Norouz, sculptées par l'érosion et qui fondent l'endroit un véritable site. Notre grand entrepreneur a fait creuser à cet endroit un vaste bassin octogonal, donc on en parlait, hein, cet immense bassin. Alors aujourd'hui, les limons ont transformé tout ça en prairie, hein, il faut bien dire, transformé par une allée grandiose de vieux platanes qui sont malades, nous disiez-vous tout à l'heure. Certains sont plusieurs fois centenaires. Il faut évoquer ce bassin de Saint-Ferréol. On doit monter jusqu'à ce bassin qui fait donc 70 hectares et qui draine les eaux de 3 barrages installés dans la montagne noire. On part la Rigole du canal. Il y a quand même 14 écluses, hein, pour arriver jusqu'à ce seuil de Norouz. L'alimentation est complétée, il faut le dire, par une réserve de la vallée, celle du lac de Grand-Guise, qui aujourd'hui est aménagée. On peut y faire toutes sortes d'activités aquatiques, etc. C'est évidemment toujours la dimension touristique propre à notre époque. N'oublions pas les difficultés que rencontre évidemment Riquet, sur lesquelles on va revenir. On est en pleine guerre de dévolution, il y a des révoltes dans le Roussillon, contre la Gabelle d'ailleurs, dont il est lui-même responsable. Les caisses de l'État sont très éprouvées. Riquet, néanmoins, est bien décidé à continuer son grand œuvre, ce qui veut dire aussi qu'au passage, ses dettes s'accumulent. Alors pour revenir au bassin de Saint-Ferréol, il est plus facile de l'atteindre depuis Castelnaudary. Là, vous prenez la D624, c'est évidemment plus direct et plus facile. Castelnaudary que traverse le canal peu après le seuil de Norouz. On est là dans la capitale du Lauragais, bien entendu. Disons-le aussi dans la capitale du Cassoulet. Ça fait partie des plaisirs, puisque nous sommes dans le tourisme et dans les plaisirs du locaux. Si je puis dire, évidemment, la gastronomie en fait partie et vous savez combien ce sud-ouest, de ce point de vue, est particulièrement riche. Alors avançons vers Carcassonne, un des grands sites du patrimoine français, le plus populaire en France, semble-t-il, d'après un sondage qui avait été fait en 1995, après le Mont-Saint-Michel et Rocamadour. Vous voyez. On connaît évidemment cette ville extraordinaire, la Pucelle du Languedoc, avec sa double enceinte totalement revue et corrigée au 19e siècle sous les instances de Viollet-le-Duc, hein, bien entendu. Il faut dire que le tourisme, on en disait un mot tout à l'heure, et on n'aura peut-être pas l'occasion d'y revenir dans le cadre de cette émission, mais le tourisme est revenu dans l'Aude, notamment depuis le classement par l'UNESCO, hein, en 1996. Ce canal du Midi est aujourd'hui extrêmement fréquenté par des bateaux de tourisme. Il est assez facile de louer une péniche. Alors, on le disait tout à l'heure, jusque dans les années 70 et même au début des années 80, il y avait encore des pinardiers qui transportait ses vins des Corbières. Le dernier convoi marchand, vous le disiez tout à l'heure, s'est arrêté en 1989. Il faut quand même savoir qu'actuellement, plus de 12 000 passages nautiques par an sont enregistrés sur ce canal du Midi, hein, qui est quand même extrêmement fréquenté. Il vaut mieux le fréquenter à la basse saison, d'ailleurs, entre nous soit dit. On attend moins aux écluses. Et à très petite vitesse, puisqu'effectivement, on est à 5-6 km/h. L'excès de vitesse est à 8 km/h. Donc, pourquoi ? Eh bien, pour protéger, bien entendu, toutes les berges, notamment des remous, des vagues. Il faut limiter les poussées sur ces berges qui les fragilisent. Puis on a parlé du problème de ces platanes. On ne va pas y revenir. Alors, pour les voies navigables de France, bien entendu, ce canal du Midi représente un budget considérable. Et ça, il faut qu'avant la fin de l'émission, nous ayons le temps d'en parler, parce que l'entretien du canal du Midi est sans doute un des grands problèmes qui se posent aujourd'hui. Certaines communes se mettent à développer toutes sortes de projets, y compris des projets touristiques qui parfois sont un petit peu inquiétants en termes de pollution, en termes d'affluence, en termes de nuisances diverses, bien entendu. Mais c'est aussi la rançon de la gloire, en quelque sorte. Alors il faut parler, dire un mot, des ouvrages extraordinaires dont ce canal du Midi est semé, avec notamment deux ouvrages magnifiques, nous l'avons dit tout à l'heure. C'est le pont canal de Répudre, d'une part. Hein, c'est comme à Briard, hein, c'est un pont qui enjambe une rivière, si vous voulez. Et puis un peu plus loin, après la croisade des Capestans, vous avez le site dans ses runes. Et là, le canal passe sous la colline, c'est donc le tunnel, la percée de Malpas. C'était la première fois en France qu'on se lançait dans un travail aussi extraordinaire. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est au milieu, enfin au deuxième tiers du XVIIe siècle. Lorsque vous êtes là, vous pouvez au passage monter voir l'ancien oppidum romain. Et de là, vous avez un panorama extraordinaire sur l'étang aujourd'hui asséché de Montady, qui fait comme une sorte de grande, comment est-ce qu'on pourrait dire, de grand disque, hein, de grande roue dans la plaine. L'arrivée du canal dans la ville natale de Riquet est marquée par le chef-d'œuvre de tout l'ouvrage, cet escalier d'eau de Fonsérane, cette écluse dominée au loin par la ville haute de Béziers. Là, c'est tout à fait extraordinaire. On est dans une de ces grandes constructions dont ce XVIIe siècle nous a habitués. On peut dire que, à soi seul, cet escalier d'eau mérite le voyage. C'est très spectaculaire, bien entendu, cette écluse. Donc, si vous allez dans la ville haute de Béziers, sur les allées Paul Riquet, vous verrez la statue du fondateur, de ce fondateur qui donc est mort 6 mois avant la fin, ou en tout cas avant l'inauguration de ce canal qui a à l'époque fait l'admiration universelle. Il ne faut pas oublier que Vauban, qui avait été envoyé un peu plus tard, on est 5-6 ans plus tard, il avait été envoyé pour enquêter sur un certain nombre de problèmes qui se posaient sur les édifices du canal. Vauban disait « J'aurais préféré la gloire d'être l'auteur de ce canal à tout ce que j'ai fait ou pourrais faire de remarquable. » Vous imaginez l'hommage du plus grand homme du grand siècle à Paul Riquet. Ça donne des frissons, si je puis dire. Alors, après Béziers, le canal est prolongé jusqu'à cette île singulière, hein, jusqu'à la patrie de Paul Valéry et de son cimetière marin, et de Jean Villard et de Georges Brassens, etc. Premier port de pêche français en Méditerranée au passage. Bien jolie ville, cette, avec conquérant, satisfait, on peut dire repu sur le littoral et sur les temps de taux qui s'étirent jusque-là, ce soleil méditerranéen qui nous a accompagnés pendant toute notre promenade au fil d'un canal du Midi sur lequel nous allons revenir maintenant, parce que ça, c'est le travail terminé, ça, c'est le canal maintenant qu'il existe et qu'il est considéré comme un des fleurons du patrimoine. Mais évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour et les difficultés, parfois insurmontables, n'ont pas manqué.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes où mon pays. Toulouse, au Toulouse.
Claude Nougaro sur Europe 1 avec Toulouse. À tout de suite. La grande aventure du canal du Midi, voilà ce que nous raconte Franck Ferrand, ses invités. Vos réactions nous parviennent?
Oui, ça réagit, bien entendu. Anne-Claire nous dit « Ah, moi je l'ai parcouru à vélo, ce canal du Midi ». C'est vrai que c'était aussi une façon de le faire. Martine n'en a fait qu'une toute petite partie, mais c'était très agréable. Il faut y retourner, Martine, et aller voir tout le reste, parce qu'il y a tellement de choses Encore habité par les descendants de Pierre-Paul Riquet, nous dit Marie-France, et Caraman, le château contient de nombreux souvenirs de cet illustre ancêtre et de son œuvre, donc le canal du Midi, projet grandiose reliant la mer Méditerranée à l'Atlantique, creusé en 14 ans grâce aux travaux et à la ténacité de cet homme. Alors, il en a fallu vraiment de la ténacité, c'est le moins qu'on puisse dire, Mireille Olimbrière, puisque les problèmes n'ont cessé de se présenter sur son chemin, des obstacles et des obstacles en permanence.
Alors, déjà, il y avait l'obstacle financier, parce que le problème, c'est que c'était l'argent de la gabelle qui permettait de financer les travaux du chantier. Or, Colbert versait toujours, avec beaucoup de retard, l'argent. Donc, c'était un gros problème pour Riquet. Ensuite, le principal obstacle, peut-être, c'est, pour résumer, disons, c'est le passage du tunnel du Malpas, parce que là, il y avait un tuf sablonneux, ça s'est écroulé. Il faut dire, c'était vraiment traverser une montagne. Il fallait creuser la montagne et tout le monde avait déconseillé à Riquet de passer par le Malpas. Et Riquet s'est entêté parce que une de ses qualités, c'était de s'en tenir à celui qui avait la meilleure solution. Mais s'il lui estimait que c'était sa solution la meilleure, il continuait son chemin. Et tout s'est effondré et Colbert devait lui envoyer un messager pour dire il faut arrêter le chantier, que va devenir le canal. Et il s'est entêté et il a fait venir pendant une semaine ses meilleurs maçons. Ils ont travaillé nuit et jour à la bougie, à la chandelle. Et il a réussi, au moment où le messager parvenait pour dire il faut arrêter le chantier, Riquet a montré que tout était fait sur à peu près un mètre de hauteur, un goulet d'étranglement. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a fait venir le président né des États du Languedoc, Monseigneur de Monzy, qui est passé presque courbé en deux dans ce goulet pour prouver que le canal pouvait était réussi.
Comme dit un de mes amis qui a l'habitude de diriger de très grands chantiers, il faut des nerfs. Il fallait des nerfs à Riquet. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où il se lance dans l'opération, c'est déjà, on ne peut pas dire un vieux monsieur, mais enfin pour l'époque, c'est un homme d'un certain âge, en tout cas.
Ah oui, il avait plus de 50 ans, presque 60
presque
ans.
Presque 60, mais oui.
Mais il a eu la bonne idée d'associer à ses travaux son fils Jean-Mathias, son fils aîné Jean-Mathias, qui a souvent été son intermédiaire auprès de Colbert, d'une part, et surtout quand Riquet était malade, parce qu'à la fin de sa vie, il était, j'allais dire, régulièrement malade, il avait des crises de paludisme, paludisme qu'il avait attrapé donc sur les côtes de la Méditerranée. Et pour Colbert, il lui fallait un Riquet comme interlocuteur, que ce soit le père ou le fils. Cela dit, Colbert était quand même assez inquiet de la santé de Pierre-Paul Riquet. Mais bon, à la fin de sa vie, Colbert a été assez dur avec Pierre-Paul Riquet. Peut-être lui-même, Colbert, étant dans des ennuis...
Des difficultés, oui, sans nom, sans presque nom, insurmontables.
Oui. Et ce qui est curieux aussi, c'est que c'est le fils de Colbert, le marquis de Seignelay, qui a été aussi l'intermédiaire de Pierre-Paul Riquet. Et à ce sujet-là, Riquet, qui était un bon vivant, envoyait des caisses entières de bouteilles d'eau de Sète au marquis de Seignelay, l'eau de Sète étant ce que j'appelle un avatar du pastis actuel. Et le marquis de Seignelay, ma foi, trouvait ça très bon. Et Riquet, je n'ose pas dire, lui donnait des pots de vin de cette manière-là, mais le marquis de Seignelay était beaucoup plus accommodant que son père Colbert.
Ce qui veut dire qu'on buvait du pastis à la cour de Saint-Germain à l'époque. Alors, Monique Dolin-Dufresnel, ce qu'il faut aussi rappeler, ce sont les conditions de travail de tous ces ouvriers. Combien d'ouvriers à peu près sur le chantier?
Alors, ça a beaucoup varié, entre 2000 et 12 000, ce qui est quand même assez important. Et Riquet mentait à Colbert, donnait un nombre d'ouvriers le plus élevé possible, de manière à lui montrer que le chantier avançait. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la notion de salariat n'existait pas. Et donc, que les ouvriers étaient d'abord payés à la journée, puis ensuite Riquet les a payés au mois. Et il avait également institué des conditions sociales complètement nouvelles, novatrices pour l'époque. C'est-à-dire que les ouvriers étaient payés même s'il pleuvait, même s'ils étaient malades, même les jours, même le dimanche, de manière à les fidéliser, parce qu'ils allaient travailler selon un jour sur le chantier du canal, un autre jour dans les moissons, un autre jour faire les vendanges. Voilà. Et je voudrais dire, juste citer à ce propos-là, la thèse de Michel Adjé, qui est remarquable sur la question. Michel Adjé, qui est le plus grand connaisseur, à mon sens, du canal du Midi, et qui a soutenu sa thèse en décembre dernier à l'Université de Montpellier, et qui fait toute une étude, justement, sur les ouvriers du canal du Midi.
Et sur le caractère assez avant-gardiste, en quelque sorte, du système mis en place. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces ouvriers souffraient du paludisme, évidemment.
Absolument.
Oui, oui, oui.
Comme à chaque fois qu'on creuse, comme
oui,
ça.
Oui. Et Riquet lui-même avait souvent des accès de fièvre quarte, ou quarte, c'est ce que l'on disait à l'époque, c'est-à-dire un paludisme dégénérescent. Et c'est extraordinaire de savoir que pendant toute une vie, il a énormément souffert de cela et de la goutte, et qu'il a travaillé comme un damné sur le chantier.
Mais ce qui l'a vraiment tué, ce sont plutôt les soucis, notamment les soucis d'argent. Hein. Il ne faut pas oublier ces problèmes financiers, et cet endettement qui peu à peu devient insurmontable quand même.
Il faisait ce que l'on appelle de la cavalerie, c'est-à-dire que la construction du canal avait été scindé en deux entreprises. Lui, s'était porté adjudicateur de la première entreprise. Puis ensuite, il s'est porté adjudicateur de la deuxième. La première allant, pour faire simple, de Toulouse à Carcassonne, et la seconde de Carcassonne à la Méditerranée. Mais pour avoir toujours de l'argent frais, d'une part. Et puis ensuite, comme l'a dit fort bien Mireille, il utilisait l'argent de la gabelle. Les états du Languedoc ne payaient pas. En fait, il était en cavalerie permanente.
Et il va mourir donc avant, ça c'est terrible, avant l'inauguration du canal. On n'a pas le temps de dire qu'il a fait bien d'autres choses. Il a notamment été l'un des concepteurs du canal de Lourcq, etc. Mais ce sera peut-être pour une autre occasion. Je voulais citer ce que nous dit Emma. Je vis à côté du canal du Midi depuis ma naissance. J'ai 40 ans. Et depuis qu'il est au patrimoine mondial de l'UNESCO, les rives à côté de chez moi ne sont plus du tout entretenus. Il y a encore 10 ans, les berges étaient magnifiques, les chemins de halage étaient même tondus. Ce n'est plus le cas. Que se passe-t-il, Mireille ?
Bon, alors moi, je ne suis plus, je me défausse en disant je ne suis plus à Voies-Navigables de France puisque je suis retraitée. Mais je puis dire que les agents font vraiment leur possible. Simplement, il y en a, comme partout, de moins en moins. Les effectifs diminuent. Et pourtant, la région, le département, financent. C'est une question d'effectifs, tout simplement. Voilà.
Alors, on n'entretient plus trop les berges, enfin moins bien qu'avant, mais en revanche, on fait des films, c'est déjà ça. Un film documentaire de Jean Périssé est en cours de montage. Hein, ça s'appelle « La fabuleuse histoire de Monsieur Riquet » et ce sera diffusé à l'automne 2013. Et puis, je tenais à citer évidemment le site internet qui est consacré à la défense et à l'illustration de la mémoire et de l'œuvre de Pierre-Paul Riquet. C'est www.riquet. Alors, c'est Riquet et son canal, tout ça en un seul mot, hein, Riquet et son canal.fr. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Monique Dolin-Dufresnel, Pierre-Paul Riquet aux éditions Sud-Ouest et Mireille Oblin-Brière, Riquet aux éditions Priva. Et puis, je tenais à signaler que très bientôt, là, vont avoir lieu, vendredi et samedi prochain, les 10e journées de l'histoire de l'Europe, organisées, vous savez, par l'Association des historiens. On en parlait la semaine dernière.
Oui.
Et cette année, le thème est passionnant. Ça s'appelle « Histoire culturelle de l'Europe de l'an 1000 à nos jours ». C'est au centre Malesherbes de la Sorbonne, dans le 17e arrondissement. Et pour vous inscrire, il suffit d'aller sur le site association.histoire.free.fr.